Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Goûts et de Luxe en compagnie de mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin. Et en cette ambiance automnale, cette ambiance fin de vendange, on avait envie de vous emmener en Champagne. C'est vrai que la région est totalement en train de se réinventer, son vin aussi, en partie. Un renouveau grâce à des hommes et des femmes d'ailleurs, fiers de leur savoir-faire et de leur terroir. On va en recevoir quelques-uns aujourd'hui. Arnaud Lallemand, le chef 3 étoiles de l'assiette champenoise. Gilles de la Bassetière, directeur général de la maison de champagne de Venoges, qui ouvre sa maison d'hôte. Et puis Auriane Denis, elle est directrice d'un nouveau champagne, Lucien Collard. C'est parti.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et c'est l'heure des nouveautés de la semaine. On retrouve tout d'abord Sandy Prenois. Bonjour.
Bonjour.
Sandy, pour Web de Luxe dans quelques instants. Et on commence par la table de la semaine. Emmanuel, la table de Marie-Jeanne.
La table de Marie-Jeanne. Alors j'adore mon métier. J'adore mon métier parce que finalement, c'est un vrai métier de piéton de Paris. Ça nous permet de recoller à des quartiers que peut-être on a l'habitude de délaisser. Je veux dire par là que l'adresse dont je vais parler, installée dans le 10e, dans le 4e, dans le 17e, des acteurs. Quartier très actif en matière de gastronomie, peut-être que je n'en aurais pas parlé. Mais là, j'ai dit de réinventer un quartier, c'est le quartier du 5e. On est rue Touillet, la rue Touillet, elle est tout près de la rue Soufflot, donc en plein cœur du Panthéon, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont fait des études dans le quartier latin. Mmh. Je vous regarde toutes. Ça s'appelle donc la table de Marie-Jeanne. C'est tout simple. C'est un joli petit décor en inspiration 50s, 60s. On en reparlera tout à l'heure côté bar, c'est vraiment la matrice du moment. Et tout simple mais pas simpliste, c'est-à-dire que c'est vraiment la rôtisserie pure et dure. Au programme, il n'y a même pas de carte, puisqu'on vous demande, vous vous installez d'abord au bar. Il y a soit une table d'hôte, soit un bar. Installez-vous au bar, au comptoir, face à la rôtisserie. Là, on va vous demander un programme très simple. Vous choisissez entre un rôti de bœuf, un magret de canard et un quart, voire une moitié de poulet. Belle volaille, hein. Okay. L'ensemble plutôt de belle extraction, tout cela cuit devant vous, alors comme on arrive dans les périodes un petit peu fraîches et un petit peu froides, ça vous fait déjà un radiateur pour l'hiver. C'est tout simple, ça rôtit devant vous.
Mais vous ne sentez pas la rôtisserie quand vous sortez là,
parce que... Pas du tout. Ah, ouais. Non, aujourd'hui, les rôtisseries, ouais. Vous savez, les rôtisseries, c'est comme les fours, c'est des Rolls-Royce. C'est tout simple, plutôt sympathique. Un petit dessert qui va bien pour accompagner. Alors, ça va se jouer avec un pain perdu, avec une tarte aux pommes. Une très, très belle carte des vins. Là encore, pas sectaire, quelques vins bio, quelques vins un petit peu plus structurés. Encore une fois, le même adresse, et vitrier voilà. Dans un quartier, là... on n'en parle pas. Ici, ça te permet de recoller à un quartier qu'on aime bien, qui, gastronomiquement parlé, est un petit peu à la ramasse. Ça lui redonne de l'élan, de la broche, de l'appétit, de la table de Marie-Jeanne, et en plus, pas très cher.
4 rue Touillet dans le 5e arrondissement.
Vous ne saviez pas la rue Touillet.
Pardon ?
Vous la connaissiez, la rue Touillet ?
Pas du tout. Et la rue du Cirque, vous la connaissez ?
Ah bah oui, 8e arrondissement, c'est pas moi, c'est
il
plutôt,
est fort. Il
c'est plutôt
fort,
François Hollande qui la connaît, Scooter et compagnie.
Voilà.
Mais et avant François Hollande, il y a eu un très très beau restaurant, puisque c'est le quartier historique de Pierre Cardin, qui avait un restaurant qui s'appelait Le Cirque.
Et ben voilà, et vous savez, il avait un immeuble, donc Pierre Cardin, et ben il n'est plus à lui, c'est un hôtel. Et voilà, c'est ça l'histoire, c'est que c'est l'hôtel Splendid Royal Paris, c'est un Italien qui est venu s'installer là après Lugano et Rome. Donc cet hôtel particulier construit en 1897 fait désormais partie de Roberto Naldi Collection. Donc c'est un grand top de l'hôtellerie italienne. Et là, il a installé le plus petit hôtel 5 étoiles de la capitale. C'est juste
5 étoiles.
12 suites raffinées. C'est tout petit.
Direct 5 étoiles.
Direct 5 étoiles, non mais voilà, après...
C'est présent qui a appelé.
En cours d'homologation, pour tout savoir. Il y aura un petit restaurant, vous irez tester, Emmanuel, vous notez, février 2017, avec Michelino Gioia, un chef étoilé, je ne sais pas si vous le connaissez, vous irez tester. En tout cas, 2-3 petites choses, le décor très italien, c'est-à-dire salle de bain marbre blanc, très classique, voilà... En revanche, 2-3 petites choses assez sympas. Pas de réception. Une femme de chambre attitrée. Ça a l'air de rien, mais ça peut être sympathique. Une cave à vin perso dans chaque chambre. Ne rigolez pas, Emmanuel.
Vous êtes en train de raconter un hôtel délicieux, un hôtel qui raconte un peu des histoires de 5 à 7. Et on ne peut pas s'empêcher de penser
bien,
à une certaine proximité
lycéenne. Voilà les hommes. Et bref, et ils ont travaillé aussi avec beaucoup avec des artisans italiens, mais aussi avec des artisans français, notamment sur le linge de maison qui vient des Vosges. Mais aussi avec l'uniforme du personnel avec une femme tailleur qui s'appelle Philippine Janssens et qui fait des très jolies choses. La maison du chocolat, les petites fifi la praline pour vous accueillir, la chambre confiture, enfin, etc. Ça s'appelle Splendid Hôtel Splendid Royal Paris. C'est bien ça, 18 rue du Cirque, dans le 8e arrondissement de Paris. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Vous nous invitez à voyager.
Oui, je vous invite avec Luciole, c'est un nom qui en dit long, on voyage éclairé. C'est le spécialiste des voyages en immersion, Comptoir des Voyages, qui a proposé cette application, qui vous propose en fait d'avoir un assistant personnel durant vos voyages avant, pendant et même après. Il y a les formalités d'entrée dans le pays, les références de billets d'avion, les trajets aériens empruntés, les infos santé, détails des réservations des hôtels, numéro de téléphone, itinéraires personnalisés, bonnes adresses dans le pays, enfin tout. Vous voyez, je cite la liste, tellement il y en a.
C'est le concierge personnel, en fait.
C'est ça. Il y a énormément de choses qui sont possibles d'accès via cette application. Il y a aussi ce GPS auquel on accède même sans connexion Internet. En vrai, c'est quelque chose que Google Maps propose aussi, que peu de gens connaissent. Mais voilà, en tout cas, dans cette application, on a tout ce dont on peut avoir besoin avant, pendant, après.
Et ça marche pour toutes les destinations de Comptoir des Voyages ?
Pour le moment, il y en a 30. Mm-hmm. Ça va être, bien sûr, développé parce que ça vient de sortir.
Et on rappelle que Comptoir des Voyages, c'est le groupe Voyageurs du Monde qui sont très en pointe et qui sont très attentifs à tous ces services de conciergerie.
Exactement.
En effet.
Emmanuel. Ce qui est intéressant dans la matrice, ce n'est pas le avant et le après,
non.
Mais c'est le pendant.
C'est le pendant. Ouais. On n'est pas perdu.
Exactement.
Du tout.
Parce que généralement, quand vous programmez votre voyage, vous appelez pendant, il n'y a personne.
Bon, après,
c'est
toujours une possibilité de discussion, parce qu'il y en a qui aiment voyager sans tout ça, complètement imprévu, etc. Donc, pour ceux qui aiment bien être cadrés, c'est vraiment
et
super.
Ça peut servir, on n'est pas obligé de s'en servir tout le temps.
Non, mais bien sûr, bien sûr. On peut ranger le portable aussi pendant les voyages.
Un petit concours.
Le concours, c'est L'Oréal Makeup Designer Paris qui vient de se lancer sur Instagram. L'année dernière, ils avaient fait la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur YouTube. L'idée, c'est quoi ? C'est une participation pour les jeunes maquilleurs. Ils vont créer un look maquillage le plus fou possible et le publier donc sur le réseau social via le hashtag TheBrush2, le chiffre 2, Go Paint Yourself. C'est un concours international. Il faut avoir 18 ans, ça va être une compétition complètement dingue. Ça a déjà commencé sur la toile, allez voir, c'est fantastique. La première sélection, donc, elle se fait le 10 novembre, il y en aura 18. Il y a un deuxième round du 10 au 27 novembre et l'annonce des 5 vainqueurs le 8 décembre. Ils vont être invités par la marque à la Fashion Week Paris 2017 à rencontrer les make-up designers. Ils vont aller dans les défilés, voir les shows, etc. Et puis c'est une occasion pour eux de rencontrer notamment Cyril Chapuis, qui est le président de L'Oréal Paris, des make-up designers stars, etc.
Donc il n'y a pas forcément d'embauche à la clé, mais en tout cas,
non.
C'est pour faire monter la sauce.
Oui, il n'y a pas d'embauche à la clé, mais en même temps, c'est toujours très bien pour ces gens-là, parce que c'est des métiers qui sont très difficiles d'être un petit peu promus comme ça par un concours.
Et j'imagine par les grandes marques aussi de voir ce qui
bien
se fait
évidemment.
De plus innovant en la matière.
Mais
allez,
oui.
On termine rapidement avec Jean-Paul Gaultier.
Oui, qui nous propose alors un voyage, deux films à 360 degrés. Je vais le citer, un voyage sensoriel unique au cœur des alambics. C'est beau, on est une goutte de parfum, véritablement nous, parce qu'on est à 360 degrés, donc on a véritablement l'impression d'être cette goutte. Et on va véritablement voyager jusqu'à devenir une essence de parfum. Au cours du voyage, on récupère les différents éléments des accords de la fragrance, cuir, bois frais et oriental pour le mâle, chantilly épicé, fleur blanche et musc ambré pour le classique. Vous avez compris, on parle des deux traditions, Jean-Paul Gaultier,
oui.
Le mâle et le classique, les corps de femmes et d'hommes, sont des films à vocation publicitaire, évidemment, commerciale. Ouais, c'est pour promouvoir les nouveaux écrins des deux parfums. Emblème de la maison.
Voilà.
Et c'est à découvrir sur jeanpaulgaultier.com, sur les réseaux sociaux de la marque via le hashtag BeTheDrop. Attention, ne vous mettez pas trop près de l'écran. Franchement, si on est trop près, on a un peu mal à la comme ça, un peu mal à la tête.
Mal à la tête. On a le mal de mer en les regardant.
Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Donc de loin.
Ouais. Il ne manque que l'olfactif effectivement pour faire découvrir tout ceci. Emmanuel, un petit bar.
Oui, voilà de l'alambic mais en direct là.
Ouais.
On va pas fantasmer derrière son écran, pipo, bimbo. Ça s'appelle le Bluebird. J'adore mon métier parce que ça nous permet de recoller un quartier, la Bastille, qui avait un petit peu oublié la nocturne ces dernières années. C'est-à-dire que c'est une nocturne un peu mainstream, mais avec la nouvelle génération de Marman, là on écope au 12 de la rue Saint-Bernard, c'est quasi du côté de Charonne, du Bluebird. Bluebird, c'est un hommage à un certain Bukowski qui en avait fait tout un poème. Bluebird, c'est un bar en esthétique années 50. Ça, c'est la carte des cocktails. Vous voyez, ça, c'est le graphisme pur et dur années 50. Et puis, alors, aujourd'hui, tout comme dans la pâtisserie, tout comme parfois dans les restaurants, je ne sais pas ce qui se passe dans l'époque, elle est obsessionnelle. Donc, ces barmen sont aussi obsessionnels. C'est un bar Norman qui a décidé de travailler d'abord et surtout le gin. Le gin, pour la petite histoire, comme disait Louise Buñuel, c'est la boisson de l'imaginaire. Alors, elle n'est pas une boisson de terroir. Par contre, c'est une boisson qui va avoir l'art de l'alambic, l'art de la distillation. Vous pouvez moduler de 30 jusqu'à 40, 50 degrés. Ici, ils travaillent le gin en direct ou le gin en cocktail. C'est vraiment assez très, très réussi. On découvre assez aussi quelques gins parisiens.
Waouh.
Alors, vous savez, il y a celui de Jules dans le 10e. Depuis quelques jours, il y a un gin parisien qui s'appelle Lord of Barbès. Je pense qu'il sera à la carte. Gin, et puis, surtout, il lance quelque chose qui s'appelle les low drinks. Le low drinks, c'est pas un cocktail sans alcool, c'est pas un cocktail, mais c'est un cocktail comme avec alcool, mais tous les alcools sont à moins de 30 degrés. Ce qui permet de s'enivrer avec glamour, avec paresse, avec élégance.
Avec éclat, ça s'appelle le Bluebird. 12 rue Saint-Bernard dans le 11e, mais bien sûr, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je termine avec...
Autrement, regardez virtuellement des parfums.
J'avais un deuxième hôtel à vous
Encore
présenter. Mais oui,
partez en vacances.
10 bis hôtel. 10 bis rue du Débarcadère,
17e.
Il est fort, cette
réorganisation,
qu'on n'a rien préparé.
Argentine.
Donc, c'est une ancienne maison close qui est devenue hôtel 4 étoiles. Donc, c'est une petite rue. En plus, c'est caché derrière la porte magique.
Généralement, c'est pas trop connu. C'était pas des grandes avenues.
Katia la rouquine.
Oh, voilà. J'adore.
Elle a éteint les lampes de chevet qu'en 2014. 23 chambres, une suite sous les toits. On retrouve d'ailleurs un petit peu cet esprit de maison coquine, mobilier dans son jus. On a une collection de photos, lettres, même des clichés coquins. C'est un self-made man libanais, Karim Massoud, qui a ouvert ce 10 bis hôtel, et c'est des disciples de Vincent Bastille.
Mais elle est là, Karim.
Non, c'est terminé. Ceci dit, il est allé la rencontrer, justement. Pour...
Ah, elle a vraiment existé.
Elle a vraiment existé. Elle est même en maison
si
de retraite, pour tout vous dire.
Lui, la dentelle. J'ai l'air.
En tout cas, c'est le 10 bis hôtel. Vous pouvez consommer sans souci. L'objet de la semaine, les 75 ans du briquet ST Dupont A. Je ne voulais pas née la maison, la belle maison Estée Dupont, maison française, madame. Pour l'occasion, je vous parle pas tout, mais je voudrais juste vous parler d'un de ces briquets, le premier briquet à complications inspiré de l'univers horloger. Parce que sinon, il y a toute une série avec réalisé l'Arc de Triomphe avec Philippe Tourner. Il y a un briquet Maharaja, un truc de dingue. Et ce briquet à complications, imaginez un petit corps squelette, donc très ouvragé, à l'intérieur duquel il y a une complication, il y a un mécanisme, en fait, comme dans une montre. C'est de la dentelle d'or et de palladium. Tout ça est... comme dans un coffre-fort, c'est protégé avec secret, etc. 4 ans de conception et de développement à Faverges.
Mais à la fin, ça lâche une flamme.
À la fin, ça fait une flamme et même deux flammes. C'est hyper complexe. Fabriqué exclusivement sur commande en 8 exemplaires numérotés. C'est incroyable. Vous pouvez rester bouche bée, Emmanuel.
Bah oui,
voici le savoir-faire.
Pourquoi vous ne l'avez pas amené à 8 exemplaires?
Oui, c'est ça. Je n'ai même pas le prix, d'ailleurs. Et c'est la maison Estée Dupont qui fête les 75 ans de son briquet. Merci infiniment.
Merci
Sandy Pronon. On vous retrouve très bientôt sur notre plateau. Et pour d'autres web de luxe.
Ben oui,
ça,
comme toutes les semaines.
Et nous, le luxe de la semaine, c'est parce que nous aussi, on part en balade aujourd'hui. Donc ça y est, j'étais partie. Aussi, on s'arrête en Champagne dans un instant. À tout de suite.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Le luxe de la semaine.
Et le luxe de la semaine se passe en Champagne cette semaine. Et d'ailleurs, j'aimerais bien piquer finalement le titre d'un beau livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Émotion en Champagne. Et vous allez comprendre pourquoi avec nos invités. D'abord, justement, notre premier invité, c'est Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles, l'assiette champenoise. Bonjour.
Bonjour.
Le bouquin, c'est vous. Vous allez nous raconter ça dans un instant.
Très bien.
Pas tout seul, d'ailleurs. La Champagne, ce sont des... Je sais pas combien il y en a, d'ailleurs, de vous qui avez un petit peu parcouru tout ça. Il y a combien de maisons de Champagne en Champagne?
Il suffit de lire sa carte déjà. Hein.
Ouais, énormément. Aujourd'hui, on est plus proche des 5000 références de Champagne qui puissent exister aujourd'hui en Champagne. Ça ne veut pas dire 5000 maisons de Champagne, oui. Parce que chaque maison a des fois jusqu'à une dizaine de références. Mais ça peut représenter jusqu'à 5000 références de Champagne.
C'est incroyable. Donc, on en a choisi...
Combien la carte de l'assiette champenoise?
1000 à peu près.
C'est pas mal. On vous en présente donc quelques-unes aujourd'hui, au moins deux, avec Oriane Denis. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du Champagne Lucien Collard. C'est une nouvelle maison.
Exactement.
Toute nouvelle. Il y en a encore qui se lancent. Vous nous raconterez ça dans un instant. Gilles de la Bassetière, bonjour.
Bonjour.
Champagne de Venoge, c'est pas forcément une nouvelle maison. Ceci dit, c'est une nouvelle maison d'habitation, une nouvelle maison de réception.
Exactement. Oui, tout à fait. On a racheté au mois de mars 2015 l'hôtel Galice, qui est un hôtel particulier magnifique sur l'avenue de Champagne. Et on a installé des chambres et on a lancé un peu le no-tourisme en Champagne voilà. dans une grande maison de champagne.
Épernay.
À Épernay, ce qui s'était jamais fait.
Et eh ben voilà, parce que ça, c'est une grande question. C'est nos touristes en
champagne. Il y a déjà un petit peu fait.
Ouais, c'est déjà un petit peu fait par de très grandes maisons.
Effectivement.
Et voilà. Arnaud Lallemand, justement, on
voit d'abord, félicitations. C'est une belle semaine pour vous.
Ouais, c'est ça, 19,5 au Go et Mio.
C'est une belle surprise parce que depuis presque 20 ans, le Gomio avait décidé d'arrêter la note à 19, 5 tocs et 19. On est une petite vingtaine à avoir ce 19 et les 5 tocs. Et là, cette année, par surprise, depuis ce matin, on entend dire qu'il va y avoir des 19,5. Et il y a trois chefs qui ont eu 19,5. Donc, Gilles Goujon qui se trouve à Fonjancouze, Arnaud Danquel à Saint-Tropez et puis nous en Champagne.
Il est sport, hein.
Ouais, bien
sûr. C'est les champenois.
Voilà, c'est d'abord les vôtres.
Ouais. Bon,
vous aviez déjà les 3 étoiles aussi, mais voilà, c'est bien. Là, je pense qu'on peut difficilement faire plus. 3 étoiles plus 19,5.
Le plus, c'est d'essayer de garder tout ça maintenant.
Eh ben, c'est ça.
Ça va être une bataille de tous les jours. Et le plus du plus du plus, c'est de s'assurer que tous les convives qui passent chez nous estiment qu'on mérite vraiment ça. C'est la vraie bataille aujourd'hui.
Ah, c'est le cadeau empoisonné. Hein.
C'est le cadeau empoisonné, ouais.
Non, c'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est la vraie bataille d'aujourd'hui.
En tout cas, l'assiette champenoise, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui vont donc de nouveau courir chez vous, Arnaud Lallemand, vous la racontez un petit peu dans cet ouvrage sorti aux éditions de La Martinière avec Louise Labourie et des photos de Mathieu Sellard, parce que vous êtes construit en reprenant la maison du papa, mais vraiment dans le terroir champenois. Et c'est ce sur quoi vous insistez. Si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que c'est, vous l'avez appelé émotion champagne, c'est le cœur de votre cuisine et le cœur de l'histoire.
Voilà. J'ai pas voulu faire un livre sur ma vie, sur la vie de mes parents, sur la vie de la maison, quoi que ce soit. J'ai fait un livre sur la vision que j'ai sur la Champagne, sur ma façon de voir les champenois, ma façon de voir les vignerons, les maisons de Champagne, les rencontres que j'ai avec. Ce que il fallait que je l'écrive, arriver à un moment, ça, il fallait que je le partage. Parce que depuis un peu plus de 15 ans que je suis revenu travailler dans la maison de mes parents, toute l'évolution qu'on a eue est grâce à la Champagne et aux champenois. Donc cette évolution-là, je voulais aujourd'hui la partager vraiment noir sur blanc. Tous les vignerons qu'il y a dedans, toutes les maisons de Champagne, les coopératives, parce que la Champagne, c'est trois grands maillons forts dont on vient de citer, hein, les vignerons, les maisons de Champagne, les coopératives. L'un sans l'autre, on ne pourra pas y arriver. Je voulais vraiment leur rendre cet ouvrage.
Mais alors, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette émission. Le Champagne, on fait souvent des émissions et on parle souvent justement du verre, avec tout le talent, et parfois un peu moins, effectivement, des champenois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on va en parler avec l'œnotourisme, avec la dynamique des nouvelles maisons, mais aussi la cuisine. Quand on parle de terroir, si on prend un tiroir équivalent comme la Bourgogne.
La Bourgogne.
On a déjà les mêmes cépages.
Vous avez les mêmes cépages, c'est une grande terre de vignobles, mais lorsqu'on est dans l'assiette, on sait qu'il y a un vrai terroir bourguignon, un terroir qui s'exprime dans l'assiette, et parfois avec des accords mets et vins, et puis même, parfois même avec une cuisine du vin. C'est quoi le terroir champenois véritablement dans l'assiette, et non pas dans les alliances mets et vins? Et c'est vrai que vous, tout comme à la grande époque, les Boyers à Reims avec les Carrières, avaient essayé de raconter ce terroir champenois. Mais est-ce qu'il s'exprime véritablement en saveur, en gourmandise, dans l'assiette, en sucré, en salé, hormis le biscuit de Reims, hein, le rosé?
Il y a aujourd'hui en Champagne, on a cette chance-là, beaucoup d'artisans qui travaillent pour le terroir champenois. Beaucoup de maraîchers, beaucoup de fruitiers, des éleveurs, il y en a énormément qui travaillent pour le terroir champenois. Nous, après, pour arriver à le retranscrire, c'est d'aller chercher ce qui va le plus s'assimiler à notre région. Qu'est-ce qui assimile le plus notre région? C'est le champagne. Qu'est-ce que c'est le champagne? C'est un vin avec une fine bulle, avec une pointe d'acidité, un petit peu d'amertume en fin de bouche. Un vin très peu dosé aujourd'hui. Un vin avec beaucoup de droiture et beaucoup de logique gustative. C'est à nous d'arriver à retranscrire ça dans nos plats aujourd'hui.
Alors,
après, je vais pas aller vous dire, oui, il y a la potée champenoise. Ça, c'est clair que la potée champenoise, comme les potées de toutes les régions de France.
Et alors là, Gilles de la Bassetière, vous rigolez.
Le jambon de Reims.
Non, mais il y a quand même quelques produits, mais là, très peu. Il y a le jambon de Reims, il y a le biscuit rosé,
le lentillon rose, il y a le lentillon rosé de Champagne.
C'est quoi le lentillon?
Lentillon, allons-y.
C'est la même lentille que la lentille vert du puits, sauf qu'elle est rose.
Ah ouais? Donc tout est rose chez vous, les biscuits, les lentilles.
Elle est rose en Champagne.
Ah, c'est génial.
Justement, si on regarde, et on peut aller directement à l'ouvrage, vous racontiez très bien ce qu'étaient les émotions sous le palais que peut éprouver le champagne. Comment on les transcrit dans une assiette? S'il fallait prendre par exemple une entrée, comme ça on a 30 minutes de questionnement, vous aurez le temps de nous faire un plat à dessert. Mais une entrée qui raconterait parfaitement cette espèce.
La langoustine.
La groustine.
La langoustine.
La langoustine, j'ai eu peur. La langoustine.
Parce que déjà, la région, le vignoble de Champagne a été immergé par les océans il y a des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, quand on va dans les terres qui sont encore travaillées de façon biodynamique ou avec une culture raisonnée, on retrouve des fossiles de coquillages. Et la langoustine, c'est un produit qui vient de la mer, une belle langoustine bretonne. On va avoir ce côté droit, cette chair qui est pleine d'iode. On va avoir un salin naturel. Mais le salin qu'on peut trouver aussi dans le champagne, quand on goûte des champagnes très peu dosées, quand on goûte des vins clairs, on retrouve ce salin-là, parce que le vignoble champenois a été immergé par l'océan, donc il y a le salin qui est présent. Donc il faut aussi aller chercher des produits où il y a un salin naturel qui reste présent. La langoustine en fait partie. En plus, la langoustine, vous pouvez la manger entièrement de A à Z. Moi, je récupère la queue pour faire rôtir et puis juste flasher un coup à la salamandre pour qu'elle reste bien tendre. Mais avec les pinces, je fais un petit jus vraiment très très réduit avec une pointe de citron. Et les têtes, je fais une crème avec pour arriver à l'accommoder avec. Et c'est
ça veut dire tout simple, voilà. Mais c'est dans le livre, ça donne bien l'eau à la
avoir le poids d'un terroir figé.
Non, parce que aujourd'hui, le terroir champenois, j'ai envie de dire, ça peut. Je dis toujours, la France, c'est une grande ferme avec un grand potager. Et il faut savoir piocher les meilleurs produits de partout la France. Ce qu'on trouve le plus proche de chez nous qui est top, il faut le prendre. Et après, il faut aller aussi chercher un peu plus loin, du moment qu'on reste aussi dans le territoire français, dans notre ferme à nous.
Un terroir en mouvement.
Donc voilà l'une des adresses où vous pouvez déguster, où vous pouvez vous sustenter et vous bien nourrir en Champagne, et on peut aussi y dormir, et de plus en plus, parce que d'ailleurs il y a quelques jours il y avait un grand raout, grand rassemblement des professionnels, ça s'appelait Destination Vignoble, c'était très sérieux, c'est là pour faire connaître la Champagne à l'étranger, pour dire venez chez nous, ça s'appelle le no-tourisme en Champagne, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire, hein. C'est vrai que depuis que la Champagne a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus exactement les coteaux, maisons et caves de Champagne, c'est le 4 juillet 2015.
En même temps que les regards bourguignons, faut quand même juste rappeler.
Bref, tout ça a été classé et vous êtes tous dit, parce que Gilles de la Bassetière, le champagne de Benoît, je m'adresse à vous, mais je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt et un sursaut à tous ensemble, tous autant que vous êtes là et tous les champenois, vous dire, il faut quand même qu'on fasse quelque chose.
Tout à fait, et puis en plus, nous de Benoît, on est avenue de Champagne à Épernay. Donc, ouais. On a nos caves avenue de Champagne et on a la vue sur les coteaux d'Aï qui sont inscrits au patrimoine mondial. Donc si vous venez chez de Benoît, vous avez les trois inscriptions du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est vraiment quelque chose d'unique.
On est au cœur de l'histoire.
On est au cœur de l'histoire, et c'est vrai que jusqu'à présent, la Champagne, au niveau accueil touristique, on n'était pas très fort, on va dire. Il y a des visites de caves, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui étaient déçues de ne pas pouvoir vivre une expérience en Champagne.
Ailleurs que dans les bons restaurants.
Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu faire chez De Venoge.
Donc vous ouvrez votre maison.
Tout à fait, on a ouvert, on a deux dépendances. Dans l'une d'entre elles, on a fait quatre chambres. Et dans l'autre, on ouvre un bar boutique avec au-dessus un appartement qui sera également possible de louer.
Mais ces maisons, elles appartenaient à la maison de Venoge, ou alors vous les avez captées parce que...
Non, elles étaient dans la propriété. Elles étaient dans la propriété et on n'en avait pas jusqu'à présent l'utilité. C'était des bureaux, des choses comme ça. Et on les a complètement transformées. Et d'ailleurs, c'est en train de se terminer puisque l'appartement devrait être terminé fin octobre, début novembre.
Alors, c'est vrai que là, c'est une nouvelle histoire, mais quelques maisons de Champagne commencent justement à se réveiller. Je crois que Veuve Cliquot aussi avait une maison qui était jusqu'à présent un peu fermée, mais qui, depuis quelques saisons, ils ouvrent, soit pour des événements particuliers, soit, je crois qu'on peut quand même y aller lorsqu'on n'est pas...
Veuve Cliquot, c'est pas là.
Attendez, j'ai l'arbitre des élégances.
Voilà. Non, mais il a raison. C'est-à-dire que ça existe depuis toujours.
Il y a toujours ces maisons.
Il y a le château de Saran.
C'est le premier château de Saran, c'est le tout premier.
La maison Belle Époque, qui était également, c'est des chambres magnifiques. Mais par contre, c'est réservé pour les VIP, c'est réservé pour les clients particuliers de la maison. Ce que nous, effectivement, on utilise nos chambres également pour cette utilité.
Parce qu'à présent, elles étaient effectivement plutôt réservées à des VIP.
Exactement. Et là, les gens, aujourd'hui, sur booking.com, les gens peuvent venir réserver leur chambre et ça marche très très fort. On a ouvert en août et on a fait 95% de taux de remplissage en septembre. Et on a même des réservations jusqu'en octobre 2017. Donc ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer.
Là, on a teasé. Dans 5 minutes, vous allez nous décrire un petit peu les chambres. Et
désormais,
vous n'avez pas fini avec votre assiette.
On peut dormir au milieu des vignes. Et surtout aussi, parce qu'on ne vous a même pas laissé parler. On n'est pas très galant, je trouve, quand même, dans Woodlux. C'est assez terrible. Auriane Denis, on parlera bien sûr avec vous du champagne Lucien Collard, parce que c'est ça aussi qui fait la dynamique de cette région. C'est ce qui se passe aussi du côté des jeunes maisons. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve juste après.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et cette semaine, nous sommes en Champagne, au moins virtuellement, grâce à nos invités. Nous sommes toujours en compagnie du chef de l'assiette champenoise, Arnaud Lallemand, d'Oriane Denis, directrice du Champagne Lucien Collard, et de Gilles de la Bassetière, directeur général de la maison de Champagne de Venoge, où on s'est arrêté juste avant la petite pause dans votre maison d'hôte. On peut appeler ça comme ça, un peu plus qu'un hôtel, c'est une maison d'hôte.
Oui, c'est une maison d'hôte, ouais, on peut dire ça.
On s'est vraiment arrêté, on n'a pas encore visité.
Non, on va visiter dans un instant, mais Lucien Collard, qui est Lucien Collard? Oriane Denis, parce que c'est une nouvelle maison de champagne, enfin nouvelle pas d'aujourd'hui, parce qu'on lance pas une maison de champagne comme ça. Il faut forcément de la vigne, il faut une histoire, il faut des stocks. Alors racontez-nous.
Alors nous sommes propriétaires de vignes dans la famille depuis le XVIIe siècle, et donc Lucien Collard, c'est quelqu'un qui existe, c'est mon parrain. Et quand il a hérité de ses vignes, il a voulu réaliser son rêve en créant sa propre marque de champagne qu'on a commencé à commercialiser il y a tout juste un an. Voilà.
Voilà. Et c'est vrai qu'au début, beaucoup de vignerons travaillent pour les grandes maisons, en fait produisent, peut-être que c'est le cas aussi pour les champagnes de Venoge, pour d'autres maisons. Pourquoi ce souhait? Parce que c'est pas évident. D'abord, parce que comme le disait Arnaud Lallemand tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de monde.
Et comment on émerge, hein?
Et comment on émerge? Comment on fait?
Alors, il y avait vraiment cette volonté de créer un jour sa propre marque. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une aventure. Donc, il faut vraiment en avoir envie. C'est une aventure entrepreneuriale. Et après, on a la chance aussi, par rapport à il y a 15 ans en Champagne, d'avoir vraiment des figures de proue, de vignerons indépendants, qui finalement ont un petit peu défriché le terrain et qui ont réussi à se placer sur des très belles tables. Et donc, c'est ça aussi qui donne ce nouveau dynamisme un petit peu dans l'écosystème champenois et qui permet à des jeunes marques de se lancer.
Oriane, très sincèrement, on va vous reposer plein de questions, mais Gilles, vous êtes vraiment l'une des marques aristocratiques. Vous parlez
de merci,
non,
merci.
Ça fait partie des grandes maisons, effectivement, qui inscrivent, quand on dit de Venoge, on répond tout de suite champagne, comme on pourrait dire de Deutz, de Rodrer, de Bollinger. Ce dont on parle beaucoup ces derniers temps, ces dernières saisons, c'est effectivement ce que vient de dire Oriane, les vignerons indépendants. Est-ce qu'ils vont bousculer dans votre manière de vinifier? Comment vous les appréhendez? Est-ce que véritablement ils ont une chance d'exister? Ou est-ce que finalement ça restera des belles aventures entrepreneuriales, mais des petites aventures de niche?
Alors, les très bons vignerons marchent très bien, très fort. Ils vendent sous allocation, ils ont plus de champagne fin septembre, ça marche très bien, mais les très grands vignerons souvent ont un grand terroir. Là, je crois pour votre cas, c'est Bouzy, et ça aide. Il y a besoin, je pense, quand on est vigneron, d'avoir quelque chose, une histoire, un terroir à raconter, ce qui n'est pas le cas des grandes maisons qui sont plutôt sur un assemblage. Qui est différent, mais qui est également très intéressant.
Depuis 10 ans, il se passe quelque chose en Champagne qui est extraordinaire. Je pense qu'on est la région viticole dans le monde entier où ça bouge le plus en ce moment. Parce que moi, quand je suis arrivé il y a 15-20 ans en Champagne, enfin quand je suis revenu en Champagne avec mes parents, on avait quand même une Champagne qui était avec un monopole de grandes maisons. Donc qui était dans un système qui était avec des brutes d'assemblage, des brutes millésimées, des grandes cuvées, et puis voilà. Et d'un coup, il y a 10 ans, 15 ans, il y a eu des enfants, on va dire, à Anselme-Selosse, qui se sont mis à faire la même chose qu'Anselme, à vouloir faire des champagnes.
Hein, c'est vraiment le précurseur. C'est vignerons indépendants.
Voilà. Ils ont commencé à vouloir faire des champagnes identitaires. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que les grandes maisons, moins bien que les grandes maisons. Ils ont voulu faire des champagnes identitaires. Ces champagnes identitaires, chaque vigneron a été s'inspirer de d'autres vignobles. Il y en a qui sont allés s'inspirer de la Bourgogne, certains de la Loire, d'autres de la vallée du Rhône. Et ils sont revenus en Champagne en faisant du champagne, mais quand même avec une vraie identité à eux. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce qui bouge en ce moment dans la région.
Alors les grands, c'est les champagnes de signature ou c'est les champagnes d'auteur? Un peu comme il y a le cinéma d'arrêt d'essai. C'est quoi, vous, votre identité à Lucien Collard, si on devait la définir? Alors, ça sera comme quoi? C'est dans la façon de vinifier? C'est dans la captation des raisins? C'est est-ce que vous travaillez en bio? C'est quoi qui va faire que Lucien Collard a peut-être justement une petite histoire à raconter, différente, petite musique, un peu différente des autres maisons?
Alors c'est vrai qu'avant tout, un champagne, c'est l'expression d'un terroir. Donc nous, on est à Bouzy, qui est classé grand cru. Donc on a vraiment une qualité de pinot noir d'exception qu'on met en avant justement à travers deux cuvées, où on a à cœur de mettre en avant ce cépage avec, on est presque à la limite des blancs de noir, on va être sur toujours des dosages de 70-80% avec un assemblage de chardonnay. Donc c'est avant tout cette expression du terroir. Et c'est également une histoire familiale, c'est également parler de la France, parler d'un artisanat. Même sur le packaging de notre bouteille, on fait appel qu'à des artisans français. Donc c'est une autre musique, on va dire, que par rapport aux grandes maisons. Nous, quand on reçoit, c'est à la maison, à Bouzy. Vous pouvez voir les vignes, vous pouvez voir directement Lucien Collard.
Alors, le champagne rosé, ce sera pour 2018 ?
Oui, alors comme on est à Bouzy et que c'est principalement pinot noir, on a vraiment à cœur de montrer ce cépage sous ses différentes facettes. Donc notre champagne rosé est élaboré à partir de Bouzy rouge. Donc c'est une spécificité qu'on a à Bouzy, c'est qu'on veut faire un vin tranquille à partir de nos raisins. Du coup, c'est un rosé d'assemblage que nous allons faire. Voilà.
Mais c'est pas pour tout de suite l'identité du champagne de Venoge, même si c'est déjà un petit peu plus connu. Quelle serait-elle ? Parce que vous nous avez amené une belle bouteille, là, c'est voilà. Ce qui représente.
Alors, de Venoge, on a plusieurs cuvées, et ce qu'on essaye de faire, on essaye de faire tout ce qui se fait en Champagne. C'est-à-dire qu'on a été la première maison en 1988 de négoce à faire un blanc de noir. Donc on a un blanc de noir, aujourd'hui on est un peu spécialisé là-dessus. On fait également un blanc de blanc, on a un rosé, on fait un extra brut, on fait un coteau champenois qui vient du vignoble des Rissets. Donc on fait tout ce qui peut se faire en Champagne, on est un peu le spécialiste de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qu'on peut boire en Champagne.
Et alors c'est cette typicité, est-ce qu'on la retrouve lorsqu'on pénètre dans votre maison d'hôte ?
Alors, La devise de Devenoge, c'est noblesse oblige. Donc la noblesse, elle démarre par le raisin. Effectivement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la base du vin. C'est comme la cuisine. Hein. Si on a les bons aliments, on va réussir à faire un bon plat. Il faut un bon cuisinier après également. Mais donc c'est pareil pour le champagne. Et donc effectivement, la maison doit être au niveau des champagnes. Donc on a effectivement un décor. Assez majestueux dans la maison, avec des plafonds en moulure Louis XV, des tableaux magnifiques. Voilà, il y a toute une image à donner de la maison qui est importante aussi.
C'est l'avantage de la Champagne aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie diversité aujourd'hui. On va avoir des maisons comme de Venoge qui amènent toute la grande tradition française et champenoise dans leur approche du vin et dans leur approche et leur conception du recevoir, et des maisons comme Madame, où on est vraiment chez le vigneron, où on va être reçu par le vigneron qui arrive avec son tracteur des vignes, avec ses bottes et puis tout. Donc un touriste qui arrive en Champagne aujourd'hui, il peut vivre tous ces moments-là. C'est la diversité qui est importante.
Mais est-ce que, pardon, pour vous, parce que c'est difficile de faire un choix, Arnaud Larmand, vous avez fait 60 recettes, par exemple, pour votre ouvrage Émotion en Champagne, est-ce que vous arrivez pas tout utiliser, mais en tout cas à profiter de toute cette palette.
Oui, parce qu'il faut profiter de toute la diversité que la Champagne nous donne aujourd'hui. Après, il y a des maisons avec qui on va avoir plus d'affinité, il y a des maisons avec qui on va peut-être avoir un peu moins d'affinité. Mais les affinités, c'est pas pour le business ou le commerce. Ça va être, on peut se retrouver peut-être demain matin sans dégustation ensemble, et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose où, avec Madame, on va se retrouver, il va se passer quelque chose, un coup de cœur sur un vin, un coup de cœur sur un plat, un coup de cœur sur le moment. Et là, l'affinité, elle se crée, et on a envie d'aller toujours plus loin.
Vous connaissez la maison de Venoge ?
Oui.
Vous connaissez Lucien Collard ?
De nom, j'en avais entendu parler il n'y a pas très longtemps. Pas encore.
Parce que c'est marrant, là, comme ça, brûle pour point. On arrive presque à la fin de l'émission, on avait fait une petite intro autour des langoustines. En tout cas, on avait raconté l'esprit de la langoustine. Là, en imaginant, dans le souvenir d'un champagne de Venoge, quel serait le plat sur lequel vous rebondiriez ? Parce que là, quand même, l'intérêt, c'est ce qui est intéressant, c'est avec les cuisiniers champenois,
blanc de noir,
qui partent souvent de leur matrice, de leur truc. C'est à partir d'un champagne, d'un vin et d'une maison, d'une signature qu'ils vont inventer
sur un blanc de noir. Et puis en ce moment, on va rentrer dans la période où il faut se réchauffer, il faut de la gourmandise, il faut des choses qui soient un petit peu plus rassurantes.
Pour l'hiver.
Presque, voilà. Et sur une tour de pigeon avec des petits épinards à l'intérieur, un tout petit bout de lard pour apporter le côté fumé du blanc de noir. Et puis avec une sauce, avec une bonne réduction. Vous savez, quand on récupère les cuisses de pigeon et puis qu'on les fait revenir venir et puis qu'on mouille et puis qu'après on laisse réduire très longtemps, très lentement.
Ça
commence à caraméliser au fond et là ça ira bien avec le blanc de noir.
Et ça c'est une vraie signature Arnaud Lallemand, les sauces aussi. Est-ce que ça vous convient Gilles de la Basse-Terre?
Ah, ça me convient très bien.
Oui, tout à fait.
Mais moi ce que je préfère chez lui.
Non.
Nous on va juste servir des petites des tapas pour accompagner le.
Et je pense que sur le vin de madame.
Alors le vin de madame que je ne connais pas.
Que je connais pas, mais je suis persuadé qu'en ce moment.
En dessert.
On a un Saint-Pierre à la betterave qui irait super bien parce que on le fait avec une émulsion au poivre et je pense que ça peut être assez extraordinaire. Il faut goûter et je suis.
Après, j'aime beaucoup.
Sûr que le Saint-Pierre.
J'aime beaucoup les oursins. Enfin, les oursins chez.
Ah, on rattaque là. Dimanche, je rattaque les oursins.
Préférée chez. C'est les oursins.
Là, on rattaque dimanche. Mais c'est pas qu'on se connaît tous. C'est qu'on s'aime tous. On est en Champagne, on s'aime tous.
Mais c'est vrai que. Et ça, je peux vous voir. C'est vrai qu'il y avait un grand terroir qui a fait le tour du monde. Qui fait le tour du monde. On dit Champagne, on pense immédiatement à. Mais pendant des années, y compris pour le touriste, pour le kidam, pour le piéton, pour le voyageur qui se baladait en Champagne, c'était quand même très fermé. Il y avait effectivement des visites de cas, mais il y avait ce côté qui n'était pas. C'est vrai qu'ils sont en train de se bousculer par les chefs, par la nouvelle génération d'ignorants, et je trouve aussi par les grandes maisons qui ont su comprendre que peut-être qu'il fallait non pas perdre de sa fierté et de son aristocratie, mais descendre un peu dans la superbe.
La Champagne, c'est 3 siècles en arrière. Il y a des vignerons, il y a eu des vignerons pendant une période. On a eu les grandes maisons, on a eu les coopératives, on est revenu aux grandes maisons. Parce que dans chaque période de la vie de la Champagne, entre la Première Guerre, la Deuxième Guerre, entre le Phylloxera et tout, on s'est appuyé sur une catégorie de vignerons ou de maisons de Champagne ou de coopératives. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire cohabiter tout le monde parce que c'est les 3 maillons les plus forts de la diversité champenoise.
Mais vous allez voir que l'ouverture, les maisons vont s'ouvrir. Parce que moi, quand j'ai lancé cette idée il y a un peu plus d'un an, mes copains d'autres maisons de Champagne me disaient mais qu'est-ce que tu vas t'embêter
à faire ça.
Et puis aujourd'hui ils commencent à s'y intéresser, ils me posent des questions, ils me disent
dans la structure du Champagne, quand on connaît les maisons, elles ont toutes des bâtisses comme
exactement.
Ça, on n'est pas dans les châteaux bordelais, mais elles ont toutes des bâtisses exceptionnelles.
Oui, alors que nous, à l'inverse, quand on a commencé à se lancer, on s'est tout de suite dit qu'il fallait avoir un lieu pour le public. Je trouve que le champagne, justement, devrait être davantage démocratisé, qu'on devrait permettre aux gens d'avoir des vraies dégustations par cépage. On a une maison de vendangeurs du 19e siècle, on a tout de suite commencé la restauration et on aimerait l'ouvrir au public d'ici un an. Mmh. C'est une autre dynamique.
Mais les convives, quand ils vont arriver chez toi, on va se tutoyer. Hein.
Oui.
Les convives, quand ils vont arriver chez toi, ils ont envie de voir Lucien arriver avec son tracteur, avec de la boue sur les bottes.
Lucien, il attend à la maison.
C'est la réalité. Quand il va arriver chez De Benoge, il a envie de voir la belle carafe, la cuvée des princes, et puis la goûter dans un beau verre en cristal. Mais il va se régaler autant à aller chez Lucien Collard s'il rencontre Lucien avec son tracteur et puis la boue aux bottes. Et ce sera 2 moments extraordinaires. Et c'est ça la Champagne. Moi, j'attends pas des vignerons qui fassent ce que font les grandes maisons, et j'attends pas des grandes maisons qui fassent la même chose que les vignerons. Ouais. Il faut qu'on cohabite tous.
Tous ensemble.
Il est bon.
Je pense
que
c'est payé par l'Office du tourisme de la Champagne.
Je trouve que. Le problème, c'est qu'on peut pas être cuisinier. Il peut prendre ma place. Je trouve qu'il anime très bien.
En tout cas, un superbe bouquin avec de très belles recettes. Moi, personnellement, je vous propose d'aller les goûter directement à l'assiette champenoise parce qu'elle est un peu complexe. Mais elles sont magnifiques.
Non, c'est pas vrai.
Mais
d'abord,
les photos sont belles. Et effectivement, il y a cette balade en Champagne à laquelle on vous a convié aujourd'hui qu'on a à l'intérieur de ce bouquin de chez La Martinière.
Bœuf d'Alexandre Polmar, pomme de terre, trésor du Périgord.
Tout simple. Montrez la photo, vous allez voir. On vous laisse une heure.
Alexandre
Polmar.
Ouais, c'est un bon copain aussi.
Du Limousin.
Ah non, pas du tout. Il est de Saint-Miel, près de Verdun.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Pas très loin de chez vous.
Parce que c'est vrai que le Limousin, c'est presque. Limousin maintenant.
Par contre, il est de Verdun. Verdun, c'est pas très très loin. C'est ça.
Allez, on y va.
Caneton de Musson. Oh, c'est dur ça.
Vous voyez. Allez, juste pour terminer, pour vous donner.
Pour vous écœurer.
Du petit caneton demi-sauvage, c'est bien ça.
De chez Pierre Duplantier.
Merci infiniment, Arnaud Lallemand, d'être venu nous voir aujourd'hui. On vous retrouve à l'assiette champenoise. Merci également, Oriane Denis. On vous retrouve donc chez Lucien Collard, à la propriété.
Avec son tracteur.
Gilles de la Bassetière. On vous retrouve à la maison de Benoge.
Avec
excellent. À Épernay, avec votre belle maison donc, dans laquelle on peut dormir.
Exactement.
Désormais. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir amené un petit peu de champagne à consommer avec modération, bien entendu, dans cette émission. Restez avec nous, le livre de la semaine, dans un instant.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et le livre de la semaine, on va continuer sur la gastronomie, le gourmet, l'épicurien avec un très grand chef. Il s'appelle Éric Fréchon, un très beau livre qui vient de sortir chez Sola. C'est vraiment le recueil d'Éric Fréchon, c'est vraiment lui qui a décidé de cet ouvrage. Avec des photographies de Benoît Linéro, mais pas seulement, parce que quand vous lisez ce livre, qui est un livre de très belles recettes, vous vous apercevez que la préface est signée Emmanuel Rubin et François-Régis Gaudry. Alors, c'est pas pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, mais Emmanuel, vous n'acceptez que rarement de faire des préfaces. Pourquoi vous avez accepté pour Éric Fréchon ?
On m'a souvent demandé, j'ai jamais accepté de faire une préface de chef ou de restaurant, c'est pas mon truc, sauf pour Éric Fréchon. Parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des fois des intimités, des affinités électives. Et je trouve que c'est un très très grand chef. Et je trouve que c'est un chef méconnu. Alors il a beau avoir 3 étoiles, il a beau être reconnu dans le monde entier, il a beau avoir la plus belle table, ou l'une des plus belles tables de Paris, voire du monde, au Bristol à Paris. C'est un chef qu'on a, et moi-même, je l'ai souvent enfermé dans ce qui est à la fois un compliment et peut-être quelque chose qui le contraint, c'est-à-dire le chef néoclassique. C'est un meilleur ouvrier de France. C'est l'un des rares chefs qui maîtrise parfaitement ce qu'on appelle les fondamentaux du chef. Le sens des alliances, le sens de la flamme, et puis le sens du produit. Mais Éric Fréchon, c'est un discret. Il a toujours été discret. Et on s'aperçoit en vérité que c'est un chef hyper créatif. C'est pas un chef à la mode. Il a toujours refusé, mais c'est un chef très moderne. Et sa cuisine, elle est en perpétuelle évolution et pas en révolution. Elle est en évolution permanente. Et c'est vrai que c'est un chef qui peut être créatif, mais qui n'a jamais, jamais oublié, depuis son bistrot dans le 19e, il y a une vingtaine d'années, jusqu'aux ors des palaces, quelque chose qui aujourd'hui a peut-être été oublié dans la gastronomie, mais qui commence à revenir, c'est le mot appétit, gourmandise. Quand vous pensez à la cuisine d'Éric Fréchon, vous avez vraiment les papilles qui salivent. Et ce livre-là, c'est un livre manifeste. Il voulait plus en écrire, Éric Fréchon. Peut-être qu'il en écrira d'autres, mais pas tout de suite. Et là, il a pris quelques-unes de toutes les recettes qu'il leur raconte. Et en travaillant avec lui pour cette préface, avec François-Régis Gaudry, il a une intelligence de l'assiette, il parle formidablement bien de ses recettes. C'est pas évident de comprendre comment il construisait ses recettes. Et puis, avec beaucoup d'humilité, il a sorti une petite feuille A4, dans laquelle il a son manifeste personnel, où il explique comment, avant même que de concevoir avec ses équipes une recette, il réfléchit à cette recette. Et on est parti de ses commandements, qui sont tous très humbles, pour essayer de raconter sa cuisine, le personnage, et puis quelques-unes des recettes qui... Alors, bien sûr, il y a le fameux gratin de macaroni, le truc qui a fait le tour du monde.
Oui,
et puis, il y a des recettes absolument... Il y en a une qui est touchante.
Alors, je m'arrête une seconde sur le canard sauvage rôti aux figues et dragé, purée d'oignons à la verveine cuisse confite, parce que c'est l'occasion aussi, parce qu'on parle d'un ouvrage, d'un livre chez Solar, et que cet ouvrage, il a même été imprimé en France dans le Doubs en utilisant un processus unique spécialement conçu pour l'occasion par Print Model. Et ça aussi, c'est quelque chose qui tenait à cœur d'Éric Fréchon,
ouais,
pour vous dire le sens du détail.
Il laisserait en hasard.
Une recette touchante pour terminer, vous disiez ?
Oui. C'est-à-dire que Éric Fréchon, il raconte, allez, on va aller vite, quand il était gamin, adolescent, au Tréport, en Normandie, à un moment donné, il avait un rêve. Un rêve, c'était d'avoir une bicyclette, un vélo. Il a demandé à son père de lui payer un vélo. Et son père, en bon sens terrien, lui a dit « Ah non, mon garçon, tu vas te le payer. » Et du coup, Éric Fréchon, il a fait la saison dans la grande brasserie marine du Tréport, qui, je crois, s'appelait le Homard Bleu. Et là, pendant une saison, il a découvert le métier. Ça a été sa passion, mais il était où ? Il était à l'écaille, c'est-à-dire à l'écailler. Et là, il faisait du tourteau mayonnaise, à l'huile de coude, la mayonnaise, et puis le tourteau, vous savez, dans les étuves. Et il a réinventé un plat à sa façon, un tourteau mayonnaise unique, bien sûr, référent, raffiné. Mais ce plat-là, en vérité, il raconte le gamin qui rêvait de vélo et qui va plus tard, finalement, faire un grand plat. Non, c'est
un bel ouvrage.
Pour moi, parmi les plus... inspirés, les uns plus inspirants, et puis surtout un grand, mais qui a su rester discret. Il fallait un petit peu moins de discrétion. C'est pour ça que j'ai accepté la préface, et le bouquin est assez...
Éric Fréchon, tout simplement, c'est aux éditions Solar, des photographies de Benoît Linéro. Allez, l'agenda.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Une vente aux enchères.
Très rapidement, on la connaît, c'est tous les ans, mais c'est toujours aussi excitant. Ça aura lieu donc le samedi 29 octobre, dimanche 30 octobre, du côté de chez Arcurial, le département Motorcars, avec la fameuse exposition, la 10e du mot automobile sur les champs. Alors, on disperse toutes ces belles automobiles le 30 chez Arcurial, mais ce qu'il y a de bien, c'est que cette fameuse exposition qui précède toujours une vente aux enchères, cette fois-ci, elle n'a pas lieu chez Arcurial, mais sur les Champs-Élysées. Alors, je vous passe les détails des modèles. Hein. On aura des Porsche, on aura, je crois, quelques Alpine Renault. Voilà, il faut toujours aller se balader. Ça fait, c'est un peu plus sympa, les champs avec ces automobiles, que les champs fermés, vous savez, avec la foule. Dessus parce qu'une certaine mère a décidé de fermer les champs parfois.
C'est votre point de vue. Tout cas, je vais continuer dans les caricatures pendant que monsieur et son fils sont en train d'admirer les belles autos sur les Champs-Élysées. Madame et sa fille peuvent aller voir Barbie rhabillée par 15 créateurs de mode. C'est 40 rue Richelieu à l'espace Molière et c'est le même week-end. Donc là, c'est la poupée mannequin. Vous savez, elle a déjà été rhabillée par plein de gens, hein, comme Karl Lagerfeld, etc. Donc là, c'est des jeunes marques de mode plutôt qui ont rhabillé, que ce soit Antique, Batique, lors de sa gazette. Mesdemoiselles, Motrotor, Roséana, Valentine Gauthier, j'en passe, et des meilleurs. Ça, c'est pour les admirer. Et de surcroît, il y a des petits ateliers pour les enfants, puisque je vous rappelle que c'est les vacances, un atelier mode pour les enfants, en partenariat avec le musée des Arts Déco, où se terminait justement l'exposition consacrée à Barbie. Autre chose.
Encore une exposition. Allez, on revient du côté des Champs-Élysées, du côté du Mini-Palais. L'exposition a commencé il y a quelques semaines. Elle se finira le 15 janvier. Elle est dédiée à un certain Oscar Wilde. Alors, cette exposition, elle raconte d'abord, bien sûr, l'écrivain, le poète, le dramaturge. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'on creuse cette exposition avec tout un tas de tableaux, d'autographes, de livres. Raconte, bien sûr, sa vie, son œuvre, son inspiration. Mais Oscar Wilde, c'est quelqu'un qui a fait du luxe, c'est pour ça qu'on l'appelait le dandy magnifique, une matrice à création. Ces fameux objets inanimés, dont on parle souvent dans cette émission, lui, il en a fait un univers littéraire. Et c'est tout ce qu'elle raconte, cette émission. Alors, c'était pas le seul, hein. Il y avait notamment chez les Français, Barbey d'Orvilly, Joris Karl Husman, dans À Rebours, il peut vous faire des pages de littérature monstre autour du parfum. Oscar Wilde avait tout ça, avec, j'allais dire, l'esprit en plus, l'humour en plus, parfois aussi une certaine mélancolie. L'exposition est très réussie, c'est aussi une manière de raconter le luxe que d'aller accompagner cette exposition. Et puis on rappelle, hein, alors c'est nourri de tous les aphorismes qui ont fait la légende d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, c'est ce que Beigbeder aurait bien aimé être. Et puis on rappelle qu'il est décédé à Paris, dans le 6e arrondissement, à un hôtel qui existe toujours, qui s'appelle l'Hôtel. Et d'ailleurs, il aura cette phrase: je meurs au-dessus de mes moyens. Ça le résume tout entier. Allez voir cette exposition.
Janvier.
C'est aussi ça, un peu un goût de luxe. Alors, le luxe, il en a jamais fait un art. Lui, c'était un artiste. Mais par contre, il en a fait une culture. Et si le luxe, et si notre émission peut exister, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'un jour, ces objets-là, ces univers-là, le parfum, les étoffes, le goût, étaient aussi, non, peut-être pas une forme d'art, mais certainement une forme de culture.
Voilà, Expo Oscar Wilde au Petit Palais, c'est jusque début janvier. Le 8 novembre prochain, prenez date, une autre vente chez Millon et Associés. Je vais vous parler photographie. C'était l'objet de notre émission de la semaine dernière, mais on était plutôt sur la photographie contemporaine. Là, c'est de la photographie de mode et surtout des archives incroyables du fonds Séberger. C'est 4000 photographies. Séberger, ce sont plusieurs, deux générations de photographes qui se sont relayés autour de la mode. Ils ont travaillé pour le plus grand maison de mode. Ça s'est terminé en avril 1977. Il n'y avait plus personne pour reprendre la maison. Mais tout ça a été conservé dans des institutions françaises. Et du coup, qu'est-ce que vous découvrez dans ce fonds? Des élégantes des champs de course du début du XXe siècle, des portraits de couturiers. Ils ont travaillé pour les grands magazines de mode aussi, de magazines féminins notamment des années 70. Donc, ils sont vraiment les pionniers de la photographie de mode. Chanel, Dior, Patou, Givenchy, Saint-Laurent, etc. Vous retrouvez tout ça près d'un demi-siècle de fonds photographiques et du coup des photos évidemment en noir et blanc pour la plupart, assez réjouissantes et vraiment très belles de toute la mode de cette époque-là. C'est le 8 novembre, Maison Millon, quartier Drouot. Emmanuel, vous allez pouvoir annoncer...
Enfin
enfin ce que vous cherchez à annoncer depuis la rentrée de
l'ONU. Alors, c'est certainement, on va reglisser du côté des restaurants, quoique c'est un peu plus que ça, ou un peu pire que ça. C'est le concept le plus épidermique de cet automne. Alors, ça fait un carton au printemps dernier du côté de Londres, ça s'appelle Bunyadi. B-U-N-Y-A-D-I. C'est un resto éphémère qui va débarquer à Paris dans quelques jours. On ne sait pas encore tout à fait. Il faut suivre sur les réseaux sociaux. Alors, soit vous faites thebunyadi.com ou vous regardez leur Facebook. Alors, on ne sait pas encore où ils vont s'installer. Rien donc à installer, rien d'autre à
signaler. Il y a quoi de spécial alors dans ce restaurant?
Un restaurant éphémère. Si ce n'est que ce spot, il accueille les nudistes.
Les nudistes.
Voilà, donc il faudra oser la faire tout de même.
C'est vrai que maintenant, ils sont autorisés à Paris.
La gastronomie, ça fait 20 ans qu'elle essaye de jouer à la plus malide. Elle va au bout du bout, là. On est au-delà du bout, d'ailleurs. J'imagine qu'on aura des nourritures accrues, des nourritures à nu, mais pas seulement. Donc vous suivez bien. Le lieu est encore secret. Vous le suivez sur les réseaux sociaux, sur leur site. Bunyadi, ça devrait faire parler. Ou pas, ou bien. Enfin bon, de toute façon, on prend une semaine de vacances et on va se remettre de tout ça.
Oui, avant de terminer, je vous annonce un grand musée du parfum. On ne sait pas grand-chose, hein, pour l'instant, qui ouvrira en décembre, si tout va bien, à Paris. On connaît l'adresse, 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est pas une maison, hein. C'est vraiment un rassemblement. C'est quand même 1400 mètres carrés avec un grand jardin. C'est là ce qui avait abrité la maison Christian Lacroix. Et c'est le syndicat français de la parfumerie qui rassemble 66 maisons de parfum. Et ce sera vraiment les grandes étapes de l'histoire du parfum, comment ça fonctionne, etc. Le processus de création. On vous en dira un petit peu plus dès que ça aura ouvert pour ce grand musée du parfum qui ouvrira donc en décembre à Paris. Donc effectivement, la semaine prochaine, on fait une petite pause, le temps des vacances. Et puis, on se retrouve juste après pour de tout nouveaux Good Luxe. Restez avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. Emmanuel, on se retrouve très bientôt. Et restez avec nous. C'est le best-of de Good Luxe Paris dans un instant sur BFM Business. À bientôt.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.